rôle d'une petite vieille, rondouillarde et bavarde, qui raconte sa vie.
Agnès Varda, dans son film Les plages d'Agnès en 2008, son sourire espiègle, son éternel coupe au bol, les images, le cinéma, comme fil conducteur de toute sa vie, la réalisatrice est éteinte cette semaine, on lui rend hommage ce dimanche. On montra aussi à bord de l'Oriental des Airs Express, un voyage en train sur les vastes plateaux arides du sud de l'Oriental, à la découverte de la culture nomade. Départ le samedi matin 6 avril d'Oujda, arrivé 14 heures plus tard à Bouarfa. Nous serons aussi sur l'île de Gorée, au large de Dakar, transformée ce week-end en immense galerie d'art. Au sommaire également de l'émission, les 30 ans de la pyramide du Louvre à Paris, l'histoire de Radio Caroline, l'une des premières radios pirates, et puis l'art de bien parler, s'exprimer avec aisance, savoir émouvoir, savoir convaincre, bref, avoir de l'éloquence. Ahmed Imzil a 28 ans, marocain, il fait ses études en France et apparemment il a ce talent. Il vient de remporter le concours d'éloquence de l'université de Metz. Dans 2 mois, il va représenter la Lorraine et le Maroc au concours national d'éloquence. C'est avec lui que nous allons commencer l'émission. Ahmed Imzil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Rabat, grandi à Marrakech, des études à Agadir, vous êtes diplômé de l'ENCG de cette ville. Depuis cette année, vous continuez votre parcours en France, vous êtes en deuxième année de licence d'AES à la faculté de Metz. Et si nous sommes en ligne avec vous, c'est que vous avez remporté le concours d'éloquence organisé par les étudiants de votre université. Ahmed, expliquez-nous les règles du jeu d'un tel concours. Il y a un thème précis sur lequel vous deviez travailler ?
Alors en fait, on avait des jeux. En fait, c'était des jeux d'oratoire où on avait des sujets tirés au hasard. Et j'avais la chance d'avoir quand même des sujets abordables. Et voilà, ça s'est fait. J'ai remporté le concours et j'en suis très fier.
Il y a plusieurs sujets.
Oui. J'avais par exemple comme sujet peut-on vivre sans aimer ? Les lumières ont-ils brillé en société ? En fait, les sujets variaient de plusieurs thématiques, mais c'était quand même très abordable pour moi. Je ne vais pas vous le cacher.
Bon, bah écoutez, très bien, tant mieux. Très abordable, c'est-à-dire que vous avez trouvé qu'en fait les thèmes étaient assez faciles.
En fait, j'avais quelques idées a priori, et je pouvais m'exprimer sur ces sujets-là et exprimer mes idées, mes convictions de façon assez claire.
Les thèmes, en l'occurrence, vous ne les découvrez pas le jour du concours, vous les aviez auparavant, vous avez pu préparer un petit peu ?
C'était une semaine avant et pour la finale, c'était 2 semaines avant, 2 semaines de préparation. Au fait, c'était un concours qui regroupait les étudiants de Sarreguemines ainsi que les étudiants de Metz. Donc il y avait au total à peu près 20 participants. Et il y avait déjà une phase de qualification, les quarts de finale, demi-finale et finale.
Et lors de la finale, vous avez dû plancher sur ce thème. L'échec est-il le fondement de la réussite ? On écoute un extrait de votre prestation et on en parle juste après.
Avant de commencer mon intervention, je tiens à vous dire que je suis partiellement d'accord avec mon opposant, justement dans le sens où l'échec est important pour réussir. Nier ce constat et le contredire fera de moi quelqu'un de naïf, quelqu'un de bête, voire même cérébralement contrarié. Heureusement pour moi, le débat de cette finale ne réside pas dans cette thématique-là. Car ce qui m'a réellement dérangé dans cette question, ce n'est pas l'association échec-réussite, mais plutôt l'association échec-fondement. Effectivement, l'échec n'est en aucun cas le fondement de la réussite. Mais l'échec est une étape importante vers la réussite.
Ahmed, au tout début de votre intervention, vous dites que vous êtes partiellement d'accord avec votre opposant. C'est quoi cette histoire d'opposant ?
En fait, mon opposant, le finaliste, il avait donné plusieurs exemples qui démontraient comme quoi l'échec peut être un fondement de la réussite. Alors moi, je ne l'ai pas contredit parce que ce serait bête pour moi de le contredire. Mais pour moi, l'échec n'est pas le fondement de la réussite, mais plutôt une étape vers la réussite. Étape qui peut contribuer concrètement à réussir. Et non pas, c'est plus une passerelle pour moi.
C'est important de dire que l'on est partiellement d'accord avec son opposant. Ça permet de donner une image d'ouverture. Ça montre que l'on a un esprit de dialogue. Ou alors c'est pour mieux endormir sa proie.
Je dirais plus mieux endormir sa proie. Parce que vous savez, l'éloquence, c'est plus un exercice où il faut convaincre un jury. Donc si on est beau parleur, c'est par des techniques comme ça, des futilités comme ça, quoi.
Et en l'occurrence, le jury, quelle était sa composition ?
Alors en fait, pour le jury, il y avait des professeurs universitaires, il y avait le maire de Sarreguemines, il y avait le doyen de la faculté de droit, il y avait un avocat, je pense, un avocat au barreau de Paris, c'était ça.
Et c'est cette noble assemblée qui a estimé ce jour-là que vous étiez décidément le meilleur.
Bah, apparemment, oui.
Vous, Ahmed, ce goût du discours, de la prise de parole en public, il est ancien ? Je sais pas, enfant, vous aimiez être au centre du jeu, de l'attention ? Quand vos copains jouaient aux soldats, vous jouiez à l'avocat ?
Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais en fait, je me suis initié à cet exercice quand j'avais 16 ans, quand j'étais au lycée, parce qu'à l'époque, il y a 4 ans, on organisait un concours d'éloquence dans mon lycée. Et c'était plus par classe. C'est pas individuel comme ce que je viens de faire là. Mais je me suis initié quand même un peu tôt au lycée à cet exercice. Et au fur et à mesure, je me suis développé et maintenant, j'ai gagné un concours d'éloquence, donc j'en suis très fier quand même.
Le fait de prendre la parole en public, ce n'est pas évident. Certains peuvent être paralysés, ils perdent tous leurs moyens. D'autres, au contraire, sont exaltés, ça les excite. A priori, vous faites partie de la deuxième catégorie. Qu'est-ce qui vous plaît tant que cela dans cet exercice, hein ?
Alors en fait, pour moi, le fait de parler en public, c'est plus de l'adrénaline positive et ça nous permet justement de nous découvrir. Personnellement, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, plus confiance en mes capacités. Et je pense que c'est un exercice, non pas qui nous rend meilleurs dans la prise de parole, parce que ce n'est pas ça vraiment le but. Le but, pour moi, et pourquoi il faut s'initier à cet exercice un peu plus tôt dans sa carrière, c'est justement pour avoir cet esprit de prise d'initiative et cet esprit de partage d'idées et de convictions.
Quelles sont les qualités requises pour être un bon orateur ? Parler lentement, avoir de l'assurance dans la voix, l'humour aussi peut-être ?
Alors en fait, déjà, il faut avoir de la volonté. Je pense que c'est une qualité primordiale. Après, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui utilisent un peu plus l'humour. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Je suis plus penché vers... tout ce qui est persuasion, parler lentement, comme vous venez de dire. J'utilise pas trop de blagues, mais je suis plus dans la persuasion et des idées claires exprimées de façon assez charismatique, on va dire.
Et puis l'aventure continue, puisque vous allez représenter la région où se trouve votre université, la Lorraine, lors du concours national. Ce sera dans un peu moins de 2 mois à Aix-en-Provence. Vous allez vous préparer, vous entraîner ?
Bien sûr, je vais me préparer justement pour mieux représenter la Lorraine, Metz, mais aussi le Maroc. C'est très important pour moi, étant étudiant étranger, de participer à ce concours et continuer à évoluer.
De porter les couleurs du Maroc. Et comment on se prépare à un exercice tel que celui-là ? On prend un thème, on réunit des amis un soir quelque part pour prendre la parole devant eux ?
En fait, ma technique est très simple. C'est justement, en fait, pour écrire mes textes, je m'inspire de la vie de tous les jours, ce qui se passe autour de moi. Il faut quand même répéter. C'est une chose primordiale. Répéter devant ses amis, devant sa famille, devant mes potes. Quand j'étais à Marrakech, je répétais énormément devant mes parents et ça m'a permis justement d'avoir un public qui peut me juger pour mieux rectifier mon texte et le perfectionner.
Je l'ai dit, vous êtes étudiant actuellement, vous êtes en deuxième année de licence. Vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard ? Je parle du métier, peut-être le secteur d'activité dans lequel vous pourriez intervenir.
Je préfère travailler dans le commerce. Et je pense que le fait de savoir manier l'art oratoire, ça pourrait me permettre justement de convaincre des clients. Et voilà.
Dans le commerce, il y a des chances. Il y a des chances que ça vous aide. Ahmed Imzil, le vainqueur du concours d'éloquence de Lorraine, est donc en lice pour le concours national de France. Vous l'avez dit, porter les couleurs de votre université, les couleurs du Maroc aussi par la même occasion. Concours national que vous allez remporter, Ahmed, la chose est entendue ?
J'espère bien, oui.
On est en tout cas à fond derrière vous. Ahmed Imzil dans Ban Culture sur Mehdi 1 ce dimanche. Merci Ahmed.
Merci à vous.
Mehdi 1, Bain de Culture avec David Labo.
La réalisatrice Agnès Varda nous a donc quitté cette semaine. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle avait 90 ans. Cinéaste, elle avait aussi d'autres talents de photographe, de plasticienne. Elle était mariée avec le réalisateur Jacques Demy. Les images, le cinéma, les visages ont été le fil conducteur de toute sa vie. Et Géry de la Nouvelle Vague, l'un de ses rares visages féminins.
Toutes portes ouvertes. Je suis une maison vide.
Cléo de 5 à 7 en 1961, film déterminant sur une musique de Michel Legrand, ami proche, compagnon de route. Le témoignage de l'actrice Masha Merrill, la dernière épouse du compositeur disparu lui-même il y a 2 mois. Masha Merrill avait tourné avec Agnès Varda, c'était dans Sans toi ni loi en 1985.
Elle est venue à la dernière de ma pièce de théâtre, je jouais au théâtre Montparnasse, avec Michel, et elle avait posé sa tête sur l'épaule de Michel, elle avait dit, et Michel m'avait dit, voilà, elle me dit adieu. Et moi, je ne savais pas lequel des deux partirait le premier. Et voilà, ils sont partis tous les deux. Ils sont ensemble. Maintenant, évidemment, moi, j'avais du soutien d'Agnès quand j'ai fait Sans-toi ni-loi avec elle. C'était une femme incroyable. J'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle. Parce que je me dis qu'une femme, pour réussir une carrière pareille, il faut être une sorcière. Il faut être terrible. Il faut avoir une autorité extraordinaire. On l'appelait la grand-mère de la nouvelle vague. Elle était la seule survivante de tout ce cinéma-là, de toutes ces années-là.
Sans-toi ni-loi, film choc, le portrait ultra-réaliste d'une jeune SDF interprétée par Sandrine Bonner. Le film obtiendra le Lion d'or au Festival de Venise. Des prix, des récompenses, Agnès Varda en a reçu beaucoup à l'automne de sa vie. César d'honneur en 2001, Palme d'honneur à Cannes en 2015 et Oscar d'honneur il y a 2 ans.
Yes, it makes me feel good, I have to say. Si j'ai été invitée ici, c'est que les gouverneurs de l'Académie m'ont choisi. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas des Oscars pour gagner sur les autres. C'est parce qu'ils ont choisi de mettre un peu de lumière sur moi et sur le cinéma français. Moi, je suis très content.
Il y a 2 ans également, elle s'était associée avec l'artiste de street art JR pour un documentaire « Visage, village ». Pendant 2 ans, ils ont parcouru ensemble la France à bord d'un camion. Ils ont pris en photo les gens dans leur cabine, imprimé leur visage et collé des impressions grand format sur les murs des villages éloignés, laissés de côté, délaissés.
Moi j'ai 33 ans. Et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps.
Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.
Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante ?
Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages.
Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.
Dis bonjour aux jeunes.
Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille.
Le but, c'est le pouvoir de l'imagination.
C'est juste l'installation de l'échafaudage qui est soumis à autorisation.
Alors moi, je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda.
Visage Village, film produit par un financement participatif, l'accueil avait été dithyrambique, l'œil d'or du meilleur documentaire au Festival de Cannes, nomination aux Oscars. L'un des derniers voyages d'Agnès Varda, cela a été ici, au Maroc. La réalisatrice était l'invitée du Festival de Marrakech qui lui rendait un hommage. Écoutez ce document, Agnès Varda répond aux questions de Patrick Simonin pour TV5 Monde. C'était il y a à peine 4 mois.
Bonjour Agnès Varda.
Bonjour.
Une déclaration pour nous, allez.
Les palmiers sont les plus beaux arbres du monde.
C'est vrai.
Et ici, ils sont somptueux.
Ici à Marrakech, oui. C'est la plus belle des lumières.
Ah oui. Des fruits, des beautés.
Et ça vous intéresse toujours la vie, au fond. Cueillir les choses, c'est ça finalement.
Comment dire les choses?
Oui.
À dire les gens quand même, surtout. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens sympathiques, ouverts, avec des yeux chaleureux. Enfin, c'est vraiment un pays. Moi, je suis venue la première fois il y a très longtemps, il y a au moins 40 ou 45 ans. On retrouve toujours ce tempérament comme ça, du sud, avec de la douceur dans les yeux. C'est très impressionnant.
Oui, il y a une gentillesse marocaine.
Sans doute, sans doute. Et ça fait plaisir.
Oui, mais vous qui avez parcouru le monde toujours, partout.
Ah, j'ai été très loin et des fois très dépaysé. J'étais en Chine en 1956, par exemple, quand la Chine n'était pas encore reconnue par les Nations Unies. J'ai été à Cuba au début de la Révolution. Bon, mais par contre, j'aime bien être près de chez moi. J'aime bien ma rue. Mon quartier, j'aime bien la France, j'aime bien les villages de France. D'ailleurs, vous savez que j'ai fait un film avec JR.
Oui,
dans les
visage, villages.
Village. les visages des villages.
Sélectionné aux Oscars, formidable film.
Mais notre travail, moi c'est la tendance documentariste quand même. C'est ce que j'aime le plus.
Voilà Agnès Varda à Marrakech en décembre dernier. Ironie de la vie, la réalisatrice s'en va alors que son complice, J.R., est en pleine lumière depuis quelques jours. L'artiste aux éternelles lunettes de soleil et son chapeau noir vissé sur la tête a été choisi pour célébrer l'anniversaire d'une réalisation architecturale contemporaine les plus réussies de Paris, la pyramide du Louvre. À 30 ans, entre J.R. et la pyramide, c'est toute une histoire. Il y a 3 ans déjà, on la lui avait offert sur un plateau. Il avait choisi de la faire disparaître. Un collage de photos reproduisant les bâtiments qu'elle dissimule et la pyramide s'était totalement fondue dans le décor. Cette fois, le résultat est encore plus frappant. Pendant des jours, épaulé par des centaines de bénévoles, J.R. a déroulé des centaines de bandes de papier imprimées sans que le motif final apparaisse.
On est en train de recouvrir toute la place avec un collage collaboratif gigantesque qui implique plus de 400 personnes, des volontaires des quatre coins du monde qui sont inscrits par Internet. On va créer une image où cette fois-ci, au lieu de faire disparaître la pyramide, on va la faire apparaître.
Le résultat a été dévoilé hier, il est spectaculaire. J.R. a fabriqué, a reconstitué un décor abyssal autour de ce monument, des failles, des crevasses, qui donnent l'impression que la pyramide émerge d'un gouffre immense, la rendant encore plus imposante. La pyramide a donc 30 ans, les Parisiens l'ont apprivoisée, adoptée, elle fait partie maintenant du paysage, mais sa construction avait fait scandale. Bombarder une telle réalisation au beau milieu de la cour du plus grand palais d'Europe, 800 ans d'histoire, beaucoup avaient crié à l'hérésie à l'époque. Les polémiques, les Français adorent ça. Alors derrière les palissades de ce chantier, les esprits alors s'échauffaient.
De nuit, ça va être absolument merveilleux.
Oui, bon. Mais que donnera le verre au bout de quelques années ?
Oui, exactement. Ah, mais on peut tout dire. Moi, je conçois bien la pyramide.
La presse aussi était divisée. André Fermigier, chroniqueur architecture au Monde, est vent debout. Il parle d'une maison des morts. Mais il est bien le seul de cet avis au sein de la rédaction, tellement isolé qu'il quitte son poste et rejoint une association opposée à la pyramide.
Quand je regarde la maquette, je vois d'abord cette pyramide qui me paraît une agression absolument insupportable dans le site du Louvre. Et la plus forte agression, je crois, dont a été victime un monument historique depuis 50 ans.
Et au cœur de la polémique, l'architecte, un étranger qui plus le chinois-américain Liu Mingpei. Pour tenter de le contrer, les opposants exigent qu'il réalise avant une maquette grandeur nature afin de pouvoir juger sur pièce, proposition balayée par ce dernier.
Maquette grandeur nature, c'est possible, mais pas la même chose. Hein. Le métier de verre, de l'eau, de fontaine, de bassin, c'est pas possible à faire maquette grandeur nature.
Pas de grand projet sans rumeur et la pyramide a eu les siens. L'édifice symboliserait la franc-maçonnerie et elle serait composée de 666 carreaux diaboliques. Il faudra attendre 1988 pour que la pyramide sorte de terre et que les Parisiens puissent se faire une idée.
On s'en serait passé, mais puisque elle est là, elle n'est pas si laide que ça en fait. Je croyais que c'était plus laid, c'est vrai.
Non, moi je ne dis pas qu'elle est mal passée, moi je dis qu'elle est complètement inutile.
Complètement inutile. Elle n'est pas du tout inutile,
mais si.
Elle donne de la lumière.
Et au final, cette réalisation au plein Paris, on la doit à la volonté d'un homme, le président de l'époque. Le jour de l'inauguration, la deuxième chaîne de télévision française fait son journal en direct de la pyramide, avec à côté du présentateur, François Mitterrand.
Il y a eu une vive polémique, pas complètement terminée d'ailleurs. On a employé des mots comme sacrilège, on avait dit à l'époque. Et est-ce que vous n'avez pas eu, un petit vertige au moment du choix final? Car cela vous engageait, nous aussi, Français, pour des siècles.
Sans aucun doute. Je ne me suis pas décidé comme cela aisément. J'avais la conviction qu'il fallait que le musée du Louvre, car il s'agit de ça, devint un lieu où l'on aimerait aller voir les œuvres admirables qui s'y trouvent. Il n'y avait pas moyen, l'accès, les commodités, la présentation des œuvres, ça ne marchait pas. Alors comment faire? J'ai donc consulté des architectes qui ont étudié de multiples projets, et celui de M. Pei m'est apparu comme le plus rationnel, le meilleur et peut-être le plus beau.
Voilà les 30 ans de la pyramide du Louvre. Bain de Culture revient. Dans la deuxième partie, on embarquera à bord du train du désert. On ira également sur l'île de Gorée au Sénégal. Tout ce week-end, les maisons coloniales, les bâtisses colorées ouvrent leurs portes afin d'accueillir et d'exposer des œuvres.
Bain de Culture avec David Labo.
And tranquility to earth. Roger, go ahead.
traverser le désert en train, des arrêts pour aller à la rencontre des nomades et aussi peut-être parfois pour déblayer les rails envahis par le sable. Une expérience à vivre samedi prochain dans l'Oriental au Maroc. Au Sénégal, quand les maisons cachées de l'île de Gorée ouvrent leurs portes, cela se passe tout ce week-end, des expos à ciel ouvert dans les plus beaux jardins. Reportage sur cette île face à Dakar, signé Emmanuel Landé. Mais pour commencer, un détour par Rabat pour ce moment de grâce. C'était hier à l'occasion de la venue du pape François. Nous sommes dans l'auditorium de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, Morchedine et Morchidat. Face au souverain marocain et au pape François, sur la scène, l'orchestre philharmonique du Maroc et des artistes représentant les trois religions du livre.
Thank you.
Dans l'ordre, l'appel à la prière musulman, Allah Akbar, interprété par le muezzin Smahi El Hadni, la prière juive Adonai avec Françoise Atlan, et enfin l'Ave Maria de Cassini avec Caroline Cassadesus. Ces trois chanteurs ont conclu le concert main dans la main. Le chef de l'Église catholique, le pape François, au Maroc, à l'invitation du roi Mohamed VI, commandeur des croyants. Un événement à suivre tout ce dimanche avec nous sur Medi 1.
Bain de culture avec David Labo.
Allez, on part maintenant au Sénégal. Tous les deux ans, les maisons coloniales de l'île de Gorée s'ouvrent au public pour un événement culturel incontournable. Gorée, regard sur cours, c'est comme cela que se nomme cet événement. Les bâtisses colorées abritent le temps d'un week-end des œuvres d'artistes du Sénégal et de l'étranger. Une façon de visiter l'île autrement et d'offrir aux visiteurs un aperçu exceptionnel de ces maisons. Sur place, pour Medi 1, Emmanuel Landé.
Ce sont une quarantaine de maisons qui ont ouvert leurs portes et leurs jardins fleuris aux visiteurs ce week-end sur l'île de Gorée. À l'intérieur, on y découvre les œuvres d'artistes sénégalais et étrangers. Photos, toiles, tissages et sculptures sont présents. L'artiste Henri Sagna a choisi de représenter le thème de cette année, contre vents et marées, avec une installation de douzaines petites pirogues en bois transportant des cercueils. Un hommage aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie à bord de navires de fortune pour atteindre les côtes européennes.
C'est triste, mais il faut assumer quoi. Et on a notre part de responsabilité, et le monde a une part de responsabilité. C'est pas seulement les migrants quoi. Je ne peux pas fustiger ces gens-là parce qu'ils veulent aller faire une nouvelle vie. Mais bon, je ne les encourage pas non plus. Hein. Mais chacun a son point de vue par rapport à cet incident-là, malheureux que je peux dire.
Marie-Josée Crespin est la créatrice de l'exposition « Regard sur cours ». Âgée aujourd'hui de 83 ans, c'est sa belle-fille qui organise cette 12e édition, mais l'amour de l'île ne l'a jamais quittée.
J'ai aimé Gorée, je connais Gorée depuis 1945, c'est pour dire que je ne suis pas jeune, parce que j'avais 9 ans, 10 ans. Et alors, avec mon père et d'autres amis, on venait régulièrement à Gorée, passionnés par Gorée, pour faire des pique-niques. À ce moment-là, il n'y avait pas du tout de tourisme, bien sûr. Donc, mon père, en 1960, a décidé d'acheter cette maison-là, de même que celle d'à côté. Ce sont des maisons du XVIIIe siècle. Au bout d'un certain temps, je me rendais compte, cette maison, je commençais à être un peu égoïste, parce que les gens, dès qu'ils essayaient d'entrevoir la maison, parce qu'il n'y avait pas vraiment de touristes à ce moment-là, mais ça commençait un petit peu, je me rendais compte que les gens avaient envie de prendre une photo, de regarder, de rentrer.
Regard sur cours offre un aperçu intime de la vie sur l'île.
Gorée est une île très intéressante, passionnante, avec une histoire. Et il faut que les gens connaissent quand même mieux que la maison des esclaves. Parce qu'on ne connaît que la maison des esclaves. Tous les gens qui se déplacent, c'est pour voir la maison des esclaves, qui est une maison très, très caractéristique et très belle. Mais je me disais, nous aussi, vous êtes ici dans une maison des esclaves. Au début, c'était un peu difficile de montrer parce que les gens disaient « Oui, mais vous avez une belle maison. Et mais nous, on a des petits... Il n'y a rien, les poules, les moutons. » On dit « Mais c'est ça qu'il faut montrer, justement. Il faut montrer la vie à Gorée. »
Nichée dans un couloir sablonneux et ombragé par les bougainvilliers roses, la maison Villa Anna date du XVIIe siècle. Oumi Sen est la propriétaire. Elle y expose ses miroirs bordés de perles.
J'ai pris des coloris qui allaient avec la maison, déjà. J'ai pensé au rose des murs avec ce bleu menthe, ce vert menthe, et que j'ai associé avec des couleurs vives. Parce que Gorée, quand on pense à Gorée, c'est des coloris, c'est cet effet.
Grâce aux résidents et artistes amoureux de cette île, ancien vestige de l'esclavage, Gorée aujourd'hui fait partie des galeries d'art vivantes du Sénégal. C'est la première fois que Yacoba Fall, sculpteur, participe.
Je me suis inspiré des enfants de la vallée de Lemont. J'ai formé un scénario qui ressemble un peu à une forme de rituel, une forme de prière pour demander aux populations de penser un peu à la nature. J'ai utilisé un peu les fibres végétales que j'ai alliées avec du fil de fer galvanisé et de la récupération. C'est un peu ça.
Gorée, regard sur cours, a lieu tous les deux ans et continue d'attirer des touristes et résidents du Sénégal année après année. Emmanuel Landais à Dakar pour Medi 1.
Sénégal, retour au Maroc dans quelques secondes. On vous invite à monter à bord du Désert Oriental Express. Yannick Beauvais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'antenne d'Oujda de l'Institut français du Maroc. Parlez-nous de cette ligne ferroviaire entre Oujda et Bouarfa. C'est une ligne abandonnée au départ.
Alors effectivement, on l'appelait l'Orient Desert Express. Cette ligne a été remise en état voilà à peu près une dizaine d'années. Et c'est pratiquement le dernier vestige de la ligne Mer-Niger. Mer-MER, donc du nord du Maroc, de la mer, qui allait jusqu'au Niger.
Vous l'avez dit, hein, Madame Beauvais, c'est une ligne qui a été remise en état il y a une dizaine d'années. Elle est utilisée ponctuellement, je crois, par des agences de voyage, des sociétés privées qui louent le train et l'infrastructure, c'est-à-dire le droit d'utiliser cette ligne à l'ONCF. Cette fois, l'opérateur, c'est vous. Et comme dans l'Institut culturel, il y a culturel, le voyage sera ponctué d'animation.
Oui, tout à fait. En fait, ce que nous avons souhaité, bien sûr, c'est mettre en fonction cette ligne à disposition de la région et du sud de cette région, afin de mettre en valeur les hauts plateaux qui sont assez désertiques, des villes et des villages qui sont éloignés de l'activité culturelle. Et donc, c'est une forme de caravane culturelle qui permettra de s'arrêter à plusieurs endroits et de promouvoir une culture à travers la musique et aussi à travers le dessin à destination des enfants, des peuples et des tribus nomades.
C'est un long voyage, ça va durer toute une journée. Je crois que le départ est à 8h30 le matin à Oujda.
Exactement.
Pour en arriver à 23h, donc 14h30 plus tard à Bouarfa.
Si tout va bien.
Si tout va bien.
Alors, normalement, oui, si tout va bien. Normalement, si vous voulez, c'est une ligne effectivement qui a 5 arrêts obligatoires que nous appelons des arrêts de sécurité. Et dans ce cadre-là, nous prévoyons 2 arrêts plus longs que d'ordinaire, parce que d'abord...
Excusez-moi, avant de décomposer la journée, ces différentes pauses, effectivement, ces arrêts de sécurité, comme vous dites, ça m'a un petit peu intrigué. En quoi il faut s'arrêter pour des raisons de sécurité régulièrement sur cette ligne?
Je pense qu'il faut vérifier peut-être les rails, qui peut-être ne sont pas utilisés aussi souvent qu'une autre ligne régulière. Et puis peut-être il y a des réorientations de rails.
D'accord.
Et puis il y a parfois du sable aussi, donc il faut certainement, à partir du moment où cette ligne est peu utilisée, je pense que les mesures de sécurité font qu'il faut effectivement vérifier avant peut-être le passage ou avant la réorientation de la direction. Le bon fonctionnement, tout simplement.
Alors, vous parlez du sable. J'avais vu des images où, effectivement, ce train est immobilisé et où on est obligé de déblayer le sable qui s'est accumulé, puisqu'effectivement, ça traverse des régions désertiques. Il y a du vent et à tout moment, des bancs de sable peuvent se former. Donc, du coup, j'imagine aussi que c'est un train qui va très lentement.
Oui, et puis ça va faire partie de l'aventure. Nous avons été amenés à organiser, bien sûr, la journée et à prévoir des points d'arrêt, mais nous ne savons absolument pas à quelle heure exactement nous arriverons, parce qu'il peut y avoir des rencontres de troupeaux peut-être, et nous l'espérons, et puis peut-être du sable, ou peut-être effectivement du vent, ou peut-être aussi d'autres imprévus auxquels nous n'avons absolument pas pensé actuellement, bien sûr.
Beaucoup de pauses sont aménagées donc tout au long de ce trajet pour permettre aux voyageurs peut-être de se dégourdir les jambes, mais aussi donc pour pouvoir s'intéresser à l'histoire de la région, à son patrimoine, à sa culture.
Oui, tout à fait. Nous aurons un arrêt à Aïn Beni Matar et donc là, il y aura un regroupement de nomades et donc nous espérons toute une animation culturelle aussi avec des chants gaspa et donc nous, avec les élus et avec les associations locales, nous allons organiser un regroupement d'enfants de nomades pour avec eux proposer un concours de peinture autour d'une thématique liée bien sûr à ce train, c'est-à-dire « Dessine-moi un troupeau ». Voilà, et donc nous verrons comment ce concours va évoluer au fil des étapes durant ces 3 journées.
Vous êtes en partenariat donc avec des associations locales, des associations de cette région?
Oui, et puis aussi les municipalités de Tendrara, municipalité de Matarka, municipalité de Aïn Beni Matar, municipalité de Figi, de Bouarfa, enfin voilà, donc nous avons vraiment travaillé avec les collectivités locales et on doit dire que nous sommes aussi très soutenus, alors nous plus particulièrement l'Institut français, bien sûr, par de gros sponsors ce sont les entreprises d'Arry, l'entreprise d'Arry, et puis la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Et puis bien sûr, il y a l'Agence de l'Oriental, qui est notre sponsor principal pour toutes nos activités au sein de notre institut, la délégation culturelle de la région, FIDIG, enfin voilà, il y a toutes les délégations culturelles que nous allons rencontrer au fur et à mesure sur notre parcours.
Je l'ai dit, la première journée, le voyage en train va durer 14h30. Vous-même, vous en serez ? Vous allez prendre ce train ?
Oui, bien sûr. Je vois pas comment on peut organiser effectivement un événement sans être dans l'aventure, bien sûr, juste quand on a un peu le mal des transports, enfin, vous avouez. Voilà, je vais me prendre quelques petits mers calmes avant de partir. Bon, je n'ai vraiment aucune idée. C'est un train qui roule en gros entre 30 et 40 à l'heure. Je ne sais pas si on va être balancé, je ne sais pas si on va être secoué. Vraiment, je n'ai aucune idée. Et ça fait partie d'une dernière nouvelle expérience.
Yannick Beauvais avec nous dans Ban Culture ce dimanche avec ce train du désert pour le développement, cet Oriental Désert Express. Ça fait un petit peu rêver. Merci Madame Beauvais.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Voilà, les trois formules sont proposées, allant de 1 à 3 jours, transport, repas, logement, tout compris. Cela commence à partir de 1210 dirhams. Mais ce week-end, exceptionnellement, les prix sont cassés. Cette première formule est à moins de 610 dirhams. Pour vous renseigner, le site c'est marocvoyage.com. Chaque matin sur Média à 7h15, on s'offre un petit voyage dans le passé. Et ce vendredi, c'était la naissance de l'une des premières radios pirates. Comprenez, une radio émettant sans autorisation. L'une des plus célèbres a commencé à émettre le 29 mars 1964. C'était quelque part au large des côtes britanniques. Radio Caroline, assurément la plus mythique de ces radios. Un an plus tard, le 24 mars 65, la télévision française s'extasie sur le phénomène.
Ce n'est qu'une voix et de la musique. Cela a pourtant envahi l'Angleterre. Cela s'infiltre dans tous les foyers anglais. Cela, c'est Radio Caroline, une radio clandestine qui a 38 millions d'auditeurs. Un vieux transbordeur, originaire des Caraïbes naturellement, qui a été reconverti, qui bat innocemment pavillon panaméen et qui dresse, hors des eaux territoriales britanniques, l'antenne de son émetteur. À bord, les munitions, autrement dit les disques, ne manquent pas. 24 heures sur 24, ils peuvent alimenter les plateaux du studio flottant de ces airs yéyés qu'attendent les mordus de Radio Caroline.
Can't Buy Me Love des Beatles, c'est avec cette chanson que la radio avait commencé ses émissions. À l'origine de l'aventure, un producteur irlandais, Ronan O'Reilly, a créé un label de musique indépendant et ne supporte plus de voir ses artistes systématiquement snobés par la BBC. Le succès est immédiat, spectaculaire, on l'a dit, est rendu possible par une armée de passionnés qui se relaient inlassablement à bord du bateau. Pendant des décennies, le rêve de tout DJ qui se respecte en Grande-Bretagne, c'est de pouvoir parler un jour dans le micro de cette radio, vraiment pas comme les autres.
And a very good afternoon to you. It's 5 minutes after 4, Caroline 558. It's a monstrous Tuesday afternoon, you know. And I am the Harrison Monster until 7 o'clock with the Monster Drivel. And we kick off this afternoon with Debbie Gibson, Electric Youth.
Je m'appelle Rob Harrison, c'est un nom anglais. Je suis DJ ici à Radio Caroline, dans le mer du Nord ici. Je parle mal français, mais ça va. Il y a un an et demi que j'ai travaillé ici. J'aime beaucoup la musique, la radio, et en plus c'est libre. C'est pour ça que je suis ici.
Prendre la mer pour échapper aux lois, rester dans les eaux internationales, Radio Caroline dérange. Son histoire est une succession d'actions justice, de menaces, d'arrestations. Elle cessera d'émettre en 1990 avant de revenir sur Internet, puis sur les ondes moyennes il y a 2 ans. Décidément, Radio Caroline ne veut pas disparaître. Note de Queen, cela ne peut jamais faire de mal. Ban Culture revient la semaine prochaine. Bon dimanche, profitez bien de cette journée. Je vous embrasse.